ce ping-pong politique auquel j'aspire.
Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage.
Moi, parce que, mais oui, bien sûr,
moi, parti. Mais qui elle est, celle-là?
La gauche caviar découvre la tête de veau.
Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
De la poudre de perlimpinpin.
Je vous demande de vous arrêter.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de l'équipe de Café Noisette, mais cette fois pour un hors-série. En effet, à l'occasion d'un voyage que nous avons organisé en Autriche avec l'AESP, nous vous proposons aujourd'hui un café viennois. Pour ce hors-série, nous avons bu pas mal de café viennois justement, et nous vous proposons trois chroniques. Celle de Nathan sur le patrimoine de Vienne, celle des artistes engagés autrichiens de Ronan, et celle du fact-checking avec Thomas. Vous l'avez compris, nous avons adapté la formule habituelle à Vienne. Et à la fin de l'émission, vous pourrez entendre des recommandations des camarades qui sont venus avec nous à Vienne. Mais pour commencer, je le disais, Nathan, qu'as-tu visité à Vienne entre deux cafés viennois ?
C'est vrai qu'on a pu goûter de magnifiques cafés, mais on a surtout pris une claque visuelle. Vienne, c'est une ville millefeuille. Chaque coin de rue raconte une époque différente. Pour cette chronique, j'ai voulu retracer notre itinéraire idéal en nous concentrant sur les trois piliers de notre séjour : la politique, la mémoire et la splendeur impériale. On commence par le bâtiment qui nous a tous forcés à lever le nez, le Parlement.
Et on s'en souvient bien, c'est un grand bâtiment au centre de Vienne avec une inspiration grecque.
C'est exactement l'idée. L'architecte Théophile Hansen n'a pas choisi ce style par hasard. Au 19e siècle, on voulait montrer que l'Autriche était une grande puissance civilisée. On a donc copié le style néo-grec en hommage à la première démocratie de la Grèce antique.
Et alors, quelle est la signification de la grande statue de déesse grecque qui trône devant le Parlement ?
Ce qu'il faut regarder, c'est la fontaine en son entier, de Pallas Athéna à l'entrée. Elle est dorée, elle est immense, mais si vous le regardez bien, elle tourne le dos au Parlement. Les Viennois adorent raconter que la déesse de la sagesse est tellement désespérée par les débats des politiciens qu'elle préfère regarder ailleurs.
Et est-ce qu'à l'intérieur de ce Parlement, c'est tout aussi impressionnant ?
Ah oui, on a vu cette salle, des colonnes qui ressemblent à un temple antique. C'est là qu'on comprend que le patrimoine, ce n'est pas juste de la décoration, c'est un message. On voulait que les députés se sentent investis d'une mission sacrée. Un conseil pour ceux qui nous écoutent, si vous y allez, regardez les détails des chapiteaux. Tout est fini à la main. C'est le luxe impérial au service de la loi.
Et Nathan, tu as voulu troquer le faste de la politique pour son côté plus sombre.
Sans aucun doute. Nous allons parler d'un lieu qui nous prend aux tripes. Le bâtiment lui-même, qui est en briques rouges, qui ressemble à une forteresse byzantine. Mais ce qui fait de ce musée un lieu de patrimoine mondial, c'est ce qu'il cache dans ses salles.
Tu parles de sa fameuse voiture grise, n'est-ce pas ?
Exactement. Le Graf et Stift de 1914, quand on s'arrête devant, le silence s'installe. C'est la décapotable dans laquelle l'archiduc François Ferdinand a été assassiné à Sarajevo. On voit très nettement l'impact de balles sur la carrosserie.
Ça doit être vraiment impressionnant de croiser cette voiture chargée d'histoire, finalement.
C'est toute la force de ce musée militaire. On y voit aussi sa tunique bleue ensanglantée. En tant que simple visiteur, ce qui me frappe, c'est le contraste. On sort du centre-ville magnifique et là... on est face à la chute de l'Empire. Le patrimoine ici, ce n'est pas de la beauté, c'est de la mémoire pure. C'est un rappel que l'histoire peut basculer en une seconde. C'est une ville qui nous a tous un peu transformés, je pense, notamment au travers du travail de mémoire.
Et pour finir, Nathan, sur une note un peu plus légère, on prend le métro direction Schönbrunn et tu voulais nous parler de l'architecture et des jardins d'un bâtiment qui a marqué ton attention.
À respirer à Schönbrunn, c'est une expérience en soi. Pour vous situer, il s'agit du château dans lequel Sissi, l'impératrice, a logé durant une grande partie de sa vie. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur une partie un peu plus méconnue de ce château, mais qui me fascine personnellement. C'est le jardin à la française. Poussé à l'extrême, là-bas tout est symétrique, les ais sont taillés au millimètre près, on dirait des murs de volure de verre. L'impératrice Marie-Thérèse voulait que la nature soit domptée, comme l'incarne le jardin à la française. Mais le clou du spectacle de cette visite, ça a été la montée vers la Gloriette. C'est cet édifice à colonnes tout en haut de la colline qui vous permet d'avoir une vue resplendissante sur la ville.
Alors ça doit grimper un peu, mais je suppose que la vue en vaut la peine.
C'est la plus belle vue de Vienne. Vous avez le château jaune, ocre à vos pieds, les jardins géométriques et la ville qui s'étend jusqu'aux collines de Wienerwald au fond. C'est là qu'on comprend l'harmonie de cette ville. On a fini notre visite, là, au soleil, et c'est l'image que je garderai. Une ville qui sait conjuguer son passé glorieux avec une douceur de vivre incroyable.
Merci Nathan. On marque une pause avant la chronique des artistes engagés de Ronan. On marque une pause donc avec Salena et Teia, deux chanteuses qui ont porté la voix de l'Autriche à l'Eurovision.
Oh my god, you're such a good writer. Oh, it's not me, it's Edgar. Who the hell is Edgar? There's a ghost in my body and he is a lyricist. It is a gorilla and bow and I think he can resist. Yeah, his brain is in my hand and it's moving really fast. Don't know how he possessed me, but I'm happy that he did. Cause this song is feeling special and he's gonna make me rich. Yeah,
a star.
Nous revoici dans Café Viennois avec Ronan, sa chronique des artistes engagés. Et pour commencer, tu voulais nous parler d'artistes qui ont participé à l'Eurovision au nom de l'Autriche.
Bonjour à tous. Alors bon, déjà, difficile de parler d'artistes autrichiens sans parler de Mozart. Même s'il est difficile de dire que c'est un artiste engagé, en même temps, me direz-vous, un artiste engagé au XVIIIe siècle, ça courait pas les rues. Mais bon, bref, passons plutôt à des artistes du XXIe siècle qui brillent par leur engagement. Déjà, en tant que Français, trouver des artistes autrichiens dont parler s'est révélé assez compliqué. J'ai donc été chercher parmi les artistes qui ont représenté l'Autriche à l'Eurovision. Petit rappel déjà que la musique et l'art ne peuvent pas se célébrer en présence d'un pays qui commet un génocide comme Israël. C'est un point un peu personnel que j'aborde, mais on ne peut célébrer l'unité alors qu'on laisse concourir un État en guerre et qui tue la population de Gaza, ce qu'Amnesty considère comme un génocide. La Russie et la Biélorussie ont été exclus en 2022 suite à l'invasion de l'Ukraine et à juste titre. Pourquoi alors ne pas faire la même chose pour Israël ?
Et nous partageons tous ton point de vue, Ronan, sur ce point-là. Tu voulais nous parler d'une artiste, Conchita Wurst.
Je vous replonge le 10 mai 2014. L'Europe et le monde découvrent Conchita Wurst, une drag queen à la voix puissante qui représente l'Autriche à l'Eurovision, le concours qu'elle gagnera, ce qui la propulsera sur la scène mondiale. Son existence seule dérange et pose question. Pour ceux qui ne verraient pas ce à quoi elle ressemble, Conchita Wurst ressemble à une femme, mais avec une barbe. Cette particularité, qui en fait tout l'aspect unique du look de l'artiste, a, en 2014, fait beaucoup de bruit et a mené de nombreux amalgames. Certains ont confondu l'art du drag que pratique de son nom civil Tom Nevers à la transidentité dont elle prend soin de rappeler qu'elle ne se considère pas comme une personne transgenre, mais un homme qui pratique l'art du drag. Certaines réactions, les plus horribles les unes que les autres, révèlent une homophobie encore très ancrée en Europe en 2014. Qu'une femme à barbe, entre guillemets, devienne le symbole de l'Europe par sa victoire de l'Eurovision, dérange.
Et quelles ont été justement ses réactions en Autriche lors de sa sélection pour l'Eurovision ?
Il n'a pas fallu attendre l'exposition médiatique après l'Eurovision pour que Conchita Wurst soit au cœur des polémiques. En Autriche, le choix de Conchita Wurst pour représenter le pays à l'Eurovision a provoqué des remarques acerbes dans l'extrême droite. Le président du Parti de la Liberté, une formation nationaliste, s'est par exemple moqué du ridicule de l'artiste et a apporté son soutien à une autre candidate qui avait estimé que Thomas Nevers avait des problèmes psychiatriques. Les critiques sont également venues de l'étranger. Le député russe Vitaly Milonov, connu pour ses propos anti-homosexuels et son activisme en faveur d'une loi contre la propagande homosexuelle adoptée à Moscou, comme s'il y avait une propagande homosexuelle qui existait, avait demandé à la Russie de boycotter une parade gay européenne après l'annonce de la candidature autrichienne.
Et quel fut l'impact de l'artiste auprès des politiques autrichiens ?
Là, je vous replonge en octobre 2014, invité à l'initiative de l'autrichienne Ulrike Lunacek, pardonnez mon allemand, j'ai fait espagnol. Première eurodéputée à avoir revendiqué publiquement son homosexualité, et par d'autres eurodéputés de plusieurs groupes politiques, notamment du PPE et de la gauche unitaire. Conchita Wurst a chanté, donc ce mercredi 8 octobre 2014, sur l'esplanade du Parlement européen à Bruxelles. Cette opération de sensibilisation à la cause LGBT et à la lutte contre les discriminations a consacré le symbole. Conchita Wurst incarne désormais cette lutte pour non pas la tolérance, mais la reconnaissance de la place des LGBT dans les sociétés européennes. À travers cela, les droits fondamentaux européens. Conchita Wurst porte un message politique d'une très grande importance, qui n'a rien à voir avec les partis ou leur travail quotidien. Son message est en lien avec les valeurs de l'Union européenne, l'égalité des droits, les droits fondamentaux, encore le droit de vivre pleinement sa vie sans crainte. Que ce soit pour le groupe des LGBTQ, LGBTQIA+, et les autres minorités, a déclaré Ulrika Lunacek, qui a reçu la lauréate.
Et il me semble, arrête-moi si je me trompe, mais que l'artiste est revenue au cœur de l'actualité en 2019.
Oui, effectivement, en 2019, elle révèle sur Instagram sa séropositivité, afin de faire cesser des pressions d'un ancien petit ami qui la menaçait de révéler cette information. En faisant cette annonce, l'artiste, je cite, « espère donner du courage et faire un nouveau geste contre la stigmatisation des gens ». Elle précise qu'elle est en bonne santé et que le VIH dans son organisme est depuis plusieurs années sous le seuil de détection. Il est important de rappeler qu'un porteur du VIH qui est sous le seuil de détection est un porteur qui ne peut pas transmettre le VIH à son partenaire, peu importe les pratiques sexuelles qu'il pratique.
Merci Ronan pour ces rappels et ces informations. Tu voulais aussi nous parler de deux autres artistes dont nous avons entendu le titre précédemment, Salena et Teia.
Donc, pour ne pas changer, je me suis plongé dans les artistes autrichiens à l'Eurovision. Mon attention s'est portée sur le duo Salena et Teia qui ont représenté l'Autriche en 2023 à Liverpool. Nous venons d'entendre leur titre « Who the hell is Edgar ?» Pardon pour mon anglais. Ici, Edgar, c'est Edgar Allan Poe qui est dans la chanson comme l'auteur caché du titre, comme il l'explique les artistes dans des interviews.
Mais alors, pourquoi ce titre a retenu ton attention ?
Alors, ce titre est avant tout et surtout une satire de l'industrie musicale, les lignes. Si on le traduit littéralement, c'est 0,003, soit le montant que Spotify donne aux artistes pour une écoute. Pour l'expliquer un peu mieux, les plateformes comme Spotify payent entre guillemets une redevance aux artistes. C'est-à-dire que pour chaque écoute, ils donnent une somme d'argent aux artistes. Sur Spotify, qui est le plus mauvais élève de tous ces sites, le montant d'un stream n'est que de 0,03 centimes d'euros. Je vous laisse faire le calcul, c'est assez ridicule. Considérant qu'aux côtés de l'artiste, il y a souvent une équipe de plusieurs personnes qui font la musique qu'on entend.
Alors peux-tu nous apporter quelques précisions justement sur ce cas de Spotify ?
Donc Spotify est le plus mauvais élève de la bande. Même si les autres plateformes ne sont pas forcément des plus généreuses, les montants restent dérisoires, mais le leader du marché fait tâche. Pourtant, Spotify essaie de se redorer son image sur le sujet en expliquant qui sont ceux qui rémunèrent le plus l'artiste. Je vous laisse réfléchir. Bah, c'est plutôt logique. Quand la plateforme compte 650 millions d'utilisateurs, forcément le volume d'argent donné aux artistes est plus important par la quantité produite. Mais si on comparait à un nombre d'utilisateurs égaux, Spotify serait bon dernier. Mais une question reste après cette chronique. Who the hell is Edgar?
Merci Ronan pour cette chronique intéressante sur des artistes autrichiens. On passe maintenant à la chronique du fact-checking avec Thomas.
Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, grand, très grand sujet, ma plus grande enquête à ce jour. Je pense que tous ceux qui sont allés au moins une fois en Autriche ont déjà vu inscrit sur un stick ou sur un t-shirt « There is no kangaroos in Austria ». Pas vrai ? Alors cette phrase, « Il n'y a pas de kangourou en Autriche ». Pourquoi et comment une phrase absurde est devenue le slogan phare de toutes les boutiques souvenirs de la capitale ?
C'est une très bonne question. Thomas, qu'as-tu trouvé comme réponse ?
Bon, alors d'après ce que j'ai pu retrouver, la première apparition de ce slogan, ce serait sur un t-shirt dans les années 80 à Salzbourg. C'était alors un étudiant qui le portait et vraisemblablement, c'était déjà une blague très usée. Mais derrière cette blague qui, vous l'aurez compris, joue sur la confusion entre Austria, l'Autriche, et Australia, l'Australie, deux mots qui se ressemblent, deux pays qui n'ont absolument rien en commun si ce n'est d'être victimes d'une erreur des touristes peu vigilants. Cela dit, derrière cette blague, un grand désarroi chez certains visiteurs du pays qui croient véritablement atterrir en Australie. C'est pourquoi il y a dans l'aéroport de Vienne des employés qui ont pour principale mission de s'occuper des vacanciers en chemisette, décorés de palmiers qui n'ont qu'une hâte, découvrir l'outback australien et qui ne pourront que se consoler par un café viennois.
Mais alors Thomas, je t'arrête parce qu'on comprend rapidement le quiproquo, mais où est la fake news de ta chronique ?
Mes chers auditeurs, Alexandre, j'entends vos fourches et votre colère. Thomas, quelle est la fake news ? Vous avez raison, fact-checking oblige, je vais fact-checker. Et c'est là que je vous prends par surprise, cher public, there is kangaroos in Austria.
Mais Thomas, tu viens de te contredire là.
Eh non Alexandre, tu es tombé dans mon piège. Bon, trèfle de présenterie. Oui, oui, il y a des kangourous en Autriche. Ce mensonge du grand capital pour vous vendre des mugs et des stickers d'une blague douteuse est faux, archi faux. Avec l'équipe de la chronique, qui n'a définitivement plus de limites, nous sommes allés en investigation très, très sérieuse à Vienne. Grâce à la ESP évidemment. Et effectivement, au zoo de Schönbrunn, le plus ancien zoo du monde encore en exploitation, fondé en 1752 par l'empereur François Ier, on trouve bel et bien des wallabies de Bennett. Des kangourous, certes en version naine, mais des kangourous quand même. L'Autriche avait donc menti. Et tant qu'on y est, je vous conseille chaudement le tour matinal proposé par le zoo, qui après vous avoir montré ces merveilleux petits marsupials bondissants, vous emmènera prendre le petit déjeuner dans le pavillon impérial du Kaiser. Et pour toi, Alexandre, il y a bien du café viennois, j'ai vérifié.
Mais c'est un très bon argument pour y retourner.
C'est maintenant fini pour moi, en espérant vous avoir appris quelque chose. Je tire ma révérence et à tous les touristes peu diligents, une dernière pensée. Non, un vol Nouvelle-Zélande-Autriche à moins de 100 €, ça n'existe pas.
Merci Thomas pour ta chronique du fact-checking. Nous vous proposons une nouvelle pause musicale avec The Technicolors et leur titre Neon Roses. Nous revoici dans Café Viennois. On vous propose désormais les recommandations des étudiants et étudiantes qui sont venus avec nous à Vienne et on se retrouve juste après.
Coucou! Alors nous, on a passé 2 jours à Vienne avec l'AESP.
Donc c'était un super voyage, franchement, merci l'AESP déjà.
Ce que j'ai préféré, c'est l'auberge de jeunesse, l'ambiance qu'il y avait qui était très conviviale.
Ce que j'ai bien aimé particulièrement, c'est l'ambiance du groupe, c'est l'esprit de communauté qu'on a su créer. Et ce que je pourrais conseiller, c'est surtout de ne pas forcément prévoir un planning précis, mais de se laisser porter par la ville, de prendre le métro, tourner à gauche, à droite dans la rue, et voilà.
Alors, Vienne est une ville très riche et ce qui a pu être très appréciable lors de ce voyage, ça a été cette centralité des monuments historiques en son centre et de pouvoir tout faire à pied. Mais encore, la périphérie est aussi disponible en métro.
Ce que je recommanderais à Vienne, c'est de ne pas hésiter à déjà prendre les transports en commun et éviter de marcher des heures et des heures. Et c'est surtout de se balader dans les petites rues.
Ce que je conseille à Vienne, c'est se promener dans le centre-ville, c'est coloré, il y a vraiment beaucoup de bâtiments différents, de super monuments à voir.
Globalement, l'architecture, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est vraiment quelque chose que nous, on n'a pas en France, tout ce qui est un peu style germanique et tout.
À Vienne, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de la ville et l'architecture.
Moi, pour ma part, ce que j'ai vraiment aimé faire, c'est juste me balader dans le centre et visiter un petit peu toutes les églises, etc. qu'il y avait.
Ce que j'ai préféré faire, c'était l'église jésuite dans le centre de Vienne. C'était hyper sympa, il y avait le marbre rose, un orgue, etc. Franchement, ça a changé des autres églises.
Ce qui m'a le plus intéressé, c'est les beaux quartiers à Vienne, parce que c'est une ville très jolie. Notamment là où il y a le Parlement autrichien. Il y a plein de monuments à côté, franchement très jolis, et je conseillerais d'aller les voir parce que c'est quelque chose à découvrir quand même.
J'ai beaucoup aimé aller visiter le Parlement autrichien parce que j'ai pu apprendre plein de choses sur l'Autriche, dans l'histoire et tout. Donc ça m'a marqué, je trouvais ça intéressant. Donc je recommande.
Moi, ce que j'ai préféré, c'est le Parlement parce que je trouve que l'architecture, elle est vraiment magnifique. Et c'est hyper intéressant de voir un peu toute la logistique.
Ok, du coup, on a été voir la Bibliothèque nationale et c'était vraiment super beau. Elle est super grande et en plus, c'est gratuit, c'est dans le centre. Et voilà, c'était vraiment beau.
Ce que je recommanderais, ça serait peut-être l'Opéra de Vienne, qui est super à faire. Par contre, prenez-y vous à l'avance pour réserver, pas la dernière minute.
Un endroit que j'aimerais conseiller, c'est vraiment la cathédrale dans le centre-ville, en face de toutes les boutiques. C'est beau, même si on n'aime pas forcément la religion, c'est un truc à voir et tout. Surtout s'il y a des messes, voir vite fait comment ça se passe globalement.
Profiter de tous les musées dans la ville, c'est vraiment chouette.
Et ce que je recommande, c'est le musée Belvédère.
On a beaucoup aimé le musée du Belvédère qu'on a fait. Il y avait pas mal d'œuvres, pas mal d'artistes.
Notamment, il y avait pas mal Gustav Klimt avec, par exemple, Le Baiser, qui est son œuvre la plus connue, souvent.
Donc moi, ce que je conseillerais, c'est le musée de Sissi. Franchement, il est super bien et même l'histoire, c'est grave intéressant. Ouais. Ouais.
Je recommande fortement le musée de Sissi, qui était super bien avec le palais, qui était super enrichissant, super intéressant, avec des audio guides qui nous expliquaient vraiment la réalité des choses. Donc c'était incroyable.
Alors moi du coup j'ai préféré, ce que j'ai préféré c'est le musée de Sissi, du coup parce que c'est vraiment somptueux pour le coup, c'est vraiment impressionnant et je pense que c'est quelque chose à faire pour connaître un peu l'histoire du pays et la vie de Sissi en général. Et après, c'est 18 euros, mais je pense que c'est très rentable. Et puis même leur boutique souvenir, elle est bien, quoi. Ensuite, ce que je recommanderais, c'est le musée de Vienne, que j'ai beaucoup aimé aussi parce que c'est très... c'est classé par décennie. On a des œuvres de toutes sortes, en fait, et c'est hyper intéressant. Et aussi, c'est en anglais, donc c'est grave compréhensible. Et en plus, c'est gratuit. Donc je recommande.
Il y a deux types d'expositions, donc une temporaire et une permanente. Celle permanente, elle est vraiment très très intéressante. Ça retrace toute l'histoire de la ville. Et donc vraiment, c'est très instructif et très très bien fait, surtout très compréhensible. C'est en allemand et en anglais. Et c'est gratuit pour les personnes de moins de 19 ans.
Ce que je peux recommander, c'est les friperies. Il y a toute une rue avec plein de friperies et il y a des bons prix, des bonnes affaires, plein de styles différents.
Ce que je recommande pour le public averti et pour les personnes majeures, c'est les cannabis shops avec du cannabis de très bonne qualité.
Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est la House de la Mer. Donc, c'est un aquarium qu'il y a dans Vienne, donc on pourrait penser que c'est un petit peu classique, mais en fait, ça a quand même sous forme de tour. Donc, en fait, au-delà de la visite de l'aquarium, en haut, vous avez une vue panoramique qui fait tout le tour avec une vue magnifique toute la ville et même un restaurant si quelqu'un veut aller manger là-haut. C'est super beau, ça s'appelle Haus de la Mer, la maison de la mer en allemand.
On trouve souvent des petits restos sympas, pas très chers.
Et petite reco, c'était Hungry Guys pour manger, c'était super bon.
C'est un petit restaurant de street food, Hungry Guy, dans le centre. Voilà, on y mange des pitas à tomber par terre.
En petite recommandation bouffe, je vous préfère recommander Akakiko, qui est une chaîne de restaurants japonais, je crois. Et les to-go box sont incroyables.
Je vous conseille les restaurants dans Vienne, notamment ceux italiens, ou alors un plat local, le Kaisersplatze.
Du coup, moi, ce que j'ai préféré, c'est vraiment mon dimanche, malgré la météo, à découvrir des spécialités locales en restaurant, et notamment cette escalope panée typique de Vienne.
Et après, les kebabs aussi, ils étaient bons.
Alors, ma recommandation pour Vienne, je vous recommande fortement d'y aller à la même période que nous, donc c'est-à-dire au mois de mars. Vous pourrez voir plein de marchés de Pâques, un peu comme les marchés de Noël, mais c'est original et c'est vachement sympa. C'est printanier.
Il y a quand même toute une ambiance dans la ville parce qu'ils fêtent, enfin, ils sont très dans la fête, dans Pâques, etc. Et donc, il y avait plein de petits marchés à tous les coins de la ville. On a pu voir beaucoup d'exposants, faire beaucoup de stands et tout, c'était trop cool. Donc voilà, et surtout qu'on ne savait pas du tout que c'était aussi fêté là-bas. Donc c'était vraiment une agréable surprise.
Je conseille, c'est surtout d'aller vers Stephanplatz et surtout à Prater, c'est très intéressant.
Ce que je recommande, c'était la fête foraine de Prater, parce qu'il y avait beaucoup de choses, mais par contre, il ne faut pas y aller hyper tard, parce qu'il n'y a pas grand monde.
Et aussi, nous, on a fait un parc d'attractions, c'était le Prater, enfin, je ne sais plus trop, Prater, je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'était super, super bien et tout.
On découvre un univers autour de l'attraction, c'est le premier parc d'attractions qui est en Europe, le plus ancien, qui est stable, c'est quelque chose à découvrir.
Moi, je vais vous conseiller la rue des Triangles des Bermudes, alors c'est une petite rue sympa avec plein de bars au bord de l'eau, et on peut se balader, il y a un peu une ambiance festive, donc voilà, à passer le seul soir où vous pouvez passer, mais voilà.
Du coup, ma reco, ce serait de vous balader la nuit dans les rues, surtout la rue commerçante, ce qui est très agréable. Il y a plein de choses illuminées, c'est très beau à voir.
Moi, j'ai adoré Vienne, le patrimoine est magnifique, on peut voir vraiment de belles choses, même si je conseille d'y aller quand il fait un peu plus beau.
Alors, moi, j'ai vraiment apprécié ce week-end, c'était un très bon week-end et on a vraiment fait faire plein de choses malgré le temps un peu pluvieux. Donc, je conseillerais déjà de venir à d'autres moments de l'année, peut-être plus l'été.
J'ai adoré Vienne, franchement c'est une super ville à découvrir, mais franchement c'était une superbe expérience. À y aller pendant quelques jours comme ça, 2-3 jours, c'est franchement top. On peut faire rapidement le tour de la ville, il y a beaucoup d'expositions, de musées, donc ça peut vraiment aller pour toutes les personnes, à tous les goûts.
Alors moi j'ai très apprécié la ville de Vienne, cette ville qui est très jolie architecturalement, on s'y perd facilement, c'est intéressant sur un week-end entre amis à faire, donc je recommande.
Nous revoici, remercier Evaël pour son montage, ça lui a pris beaucoup de temps. Et merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'est la fin de Café Viennois et de Café Noisette pour cette année. On se retrouve en septembre avec des têtes reposées et plein d'idées pour vous. Merci à toute l'équipe de Café Noisette, Justine, Elisa, Charles, Louise, Thomas, Pauline, Ronan, Evaël, Romane, Lucie, Mona, Nathan et Elodie. Bonne soirée à toutes et tous et à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire.
Because you can't be do what we want to do.
Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances. J'espère que le gâteau était bon.
Voilà, nous avons un peu le sentiment d'être venus pour rien. Mais c'est pas grave, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer.